Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau rouage, d'une nouvelle mécanique de développement qui est peu à peu en train de se mettre en place et qui, c'est l'espoir de ses promoteurs, révolutionnera demain la physionomie des économies africaines. Ce nouveau rouage, c'est en français la zone de libre-échange continentale, un acronyme un peu barbare, la ZLEC, qui est entrée en vigueur le 31 mai dernier. Un sommet opérationnel doit avoir lieu début juillet à Niamey, au Niger, mais créer une zone unique de libre-échange sur un continent aussi vaste que l'Afrique, c'est probablement plus facile à dire, à imaginer qu'à faire, qu'à réaliser. Alors, quels sont les obstacles pour bâtir cet immense ensemble économique? Quels sont les effets pervers qu'il pourrait générer? Et d'abord, est-ce une bonne idée? Voilà les questions dont nous allons débattre avec les trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Akiko Suwa-Eisenman.
Bonjour.
Akiko Suwa-Eisenman, vous êtes directrice de recherche à l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'INRA, chercheuse et enseignante à l'École d'économie de Paris. Vos travaux portent beaucoup sur la libéralisation commerciale dans les pays en développement. On est au cœur du sujet avec vous dans ce studio, Emmanuel Iga. Bonjour Emmanuel Iga.
Bonjour.
Emmanuel Iga, vous êtes nigérian, docteur en géographie économique et directeur général de Phobos, une société qui fait des relations publiques entre la France et le Nigeria, votre pays. Et je termine cette présentation par vous, Grégoire Rota-Graziosi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Boris.
Grégoire Rota-Graziosi, vous êtes professeur de sciences économiques et directeur du CERDI, le laboratoire en économie du développement de l'Université Clermont-Auvergne et du CNRS. Vous êtes également co-responsable du programme de fiscalité de la FERDI, la Fondation pour les études et recherches sur le développement international. J'ajoute que vous avez aussi beaucoup accompli de missions sur ces questions de fiscalité pour le FMI. Alors au cours de cette émission, des reportages, bien sûr, nous retrouverons Moïse Gomis à Lagos au Nigeria, Yaya Boudani à Ouagadougou au Burkina Faso et Sidi Yansané à Abidjan en Côte d'Ivoire. Question que je vous pose à tous les trois. Est-ce que dans 20 ou 30 ans, on se dira concernant l'Afrique, ce mois de juin 2019, où cet accord signé à Kigali en mars 2018, c'est une grande date, le début d'une nouvelle histoire économique pour l'Afrique, Emmanuel Iga. Est-ce que cette ZLEC, rétrospectivement, cette idée, cette volonté, on se dira comme pour l'Europe et le traité de Rome en 58, c'est le début de quelque chose?
Je pense que là, meilleure réponse à cette question, c'est que...
Une question difficile.
Oui, c'est une question difficile, c'est que pour toute évolution majeure de ce genre, il faut quand même commencer quelque part. Donc, beaucoup d'Africains voient du bon œil cette perspective de pouvoir ouvrir les frontières entre les pays africains pour une circulation plus facile, plus libre des marchandises et éventuellement des personnes.
Pour l'instant, on en est aux marchandises.
Voilà, et on en est aux marchandises, et ça, c'est très limité même. L'Afrique commerce avec les autres régions du monde plus qu'elle ne le fait entre les pays africains. Donc, je pense que effectivement, d'ici 30 ans, si ce projet qui est sur le point de démarrer est soutenu vigoureusement, plus que d'autres projets comme le NEPAD qu'on a eu, le nouveau partenariat pour le développement qui s'est avéré finalement comme une sorte d'usine à gaz et ça n'a pas vraiment pris. Et si cette fois-ci, on travaille bien, je pense que d'ici 30 ans, beaucoup d'Africains seraient contents qu'on pourra aller, je ne sais, de Dakar à Nairobi, vendre ses produits, ou de Nairobi au Caire, vendre des produits. Voilà, facilement.
Akiko Suwa-Eisenman, dans 30 ans, on se dira, on sortira les archives de cette émission et on dira, regardez, écoutez ce qu'on disait au début sur les antennes d'RFI.
J'espère. Je trouve que ce projet de zone continentale, ça dégage une énergie positive dans ce. Enfin, c'est peut-être plutôt maintenant, c'est-à-dire dans un monde où on pense qu'il y a un tournant protectionniste, où tous les pays commencent à se poser des questions de certains pays, en tout cas de mesures unilatérales, de guerre commerciale. Voilà un continent qui essaie d'aller quelque part sur les traces du projet européen, c'est-à-dire un marché unique avec les quatre libertés, des biens, des services, des capitaux et des hommes. Jusqu'où ira-t-il? On ne sait pas, mais cette énergie positive que le continent africain nous donne, j'aimerais bien que d'autres pays le partagent en ce moment.
Alors Grégoire Rota-Graziosi, c'est un projet porteur, un projet d'avenir. Qu'est-ce qu'on en dira dans 30 ans? Je vous repose à vous la question. Projetez-vous dans 30 ans avec quelques cheveux blancs en plus dites-nous comment on verra rétrospectivement ce mois de juin 2019. Est-ce que c'est le début d'une grande aventure?
Dans 30 ans, je serai à la retraite, content d'y être.
Nous tous, je pense.
Je pense, oui.
Oui, on peut imaginer, effectivement, c'est une date qui peut marquer, notamment avec le contexte, comme disait Akiko Soa, dans le contexte actuel de la guerre commerciale ouverte entre les États-Unis et la Chine, l'effort de l'Afrique d'engager dans un processus multilatéral très complexe, très compliqué, mais on pourra toujours réécrire l'histoire, je veux dire ex post, on pourra dire oui, il y a une date marquante, juin 2019, et la création de ce traité, même si il faut rester très 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 prudent sur l'évolution et ne pas imaginer que ce soit encore une nouvelle usine à gaz comme le NEPAD a pu l'être fut un temps.
Alors rappelez-nous en deux mots ce que voulait être le NEPAD, Grégoire Rota-Graziosi. Oui.
Hein? Oh, je suis pas vraiment spécialiste du NEPAD, mais on va dire que c'était une volonté de mettre en place des politiques de développement coordonnées entre le Nord et le Sud, notamment avec des transferts. On rajoutait en plus, fut un temps, on a rajouté tout ce qui était question de biens publics mondiaux fournis par notamment l'Afrique, qui pouvait générer des flux financiers du Nord vers le Sud pour sauvegarder la planète même.
Donc, mais alors, est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, de vouloir créer une zone continentale
Il y a déjà des zones régionales que je connais beaucoup mieux, comme l'UMOA, la CEMAC, la CDAO, qui sont des unions douanières. L'IACI, l'Eastern African Community, pour l'Afrique de l'Est. Vous avez aussi la SADC, la SADEC.
La SADEC, oui.
Vous avez une multitude de zones d'union douanière qui sont déjà même plus qu'une des zones de libre-échange, avec des dysfonctionnements patents qui résistent, où les intérêts nationaux résistent. Et au-delà même des intérêts nationaux, les intérêts de certaines sociétés s'opposent.
De sociétés privées, de compagnies.
De sociétés privées, oui, pour garder des monopoles nationaux et autres. Donc, bien sûr, cette création, cette volonté, cette force, cette puissance, cet optimisme est peut-être très intéressant et pourra peut-être dépasser les intérêts nationaux ou les intérêts privés.
Alors, je sens pas mal de scepticisme chez vous, Grégoire Rota-Graziosi. Je me retourne vers Akiko Soa Eisenman, qui faisait preuve d'un grand optimisme, d'une vision très idyllique de la chose, peut-être. Akiko Soa Eisenman, c'est une bonne idée de lancer cette zone de libre-échange?
Je crois que c'est une bonne idée. Peut-être que je suis très optimiste, mais c'est une bonne idée parce que c'est un projet extrêmement ambitieux. C'est un projet où, pour l'instant, les Africains ne se refusent rien, c'est-à-dire mettent à peu près presque tous les sujets sur la table, même s'ils les repoussent un peu. Donc il y a ces deux phases de négociation. La première qui est presque parachevée, qui est sur les biens. Mais on ne sait pas encore quel est le calendrier exact, quels seront les biens qui seront libéralisés. On sait qu'il y aura 90% des produits qui seront libéralisés, 10% resteront à la discrétion des États, 7% seront libéralisés un jour, un peu plus tard, sous 10 ans ou sous 13 ans, et 3% seront a priori exclus.
Les 3% restants.
Des 3% des produits tarifaires, oui, seront exclus, mais 3% des produits ça ne veut pas du tout dire 3% de la valeur, parce qu'on sait que les exportations sont extrêmement concentrées. Donc, tout est, le diable est dans les est dans le détail, et on ne sait pas encore quelles sont ces listes et ces calendriers exacts des biens. Mais quand même, c'est une construction juridique. Dans la zone de, dans cette zone de libre-échange, il y aura même le luxe d'avoir un règlement, un mécanisme de règlement des différends.
Une OMC africaine.
Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment possibilité qu'il y ait une action prise par la juridiction, comme c'est le cas de l'OMC. Mais en tout cas, c'est un système juridique qui est en train de se créer. Regardons comment ça se passe. Mais le problème, effectivement, c'est que ça ne se passe pas sur du vide, comme dit Grégoire.
Emmanuel Inga, une bonne idée, ou est-ce qu'on va aller au-delà du simple traité? Est-ce que les réticences, les obstacles vont être aplanis?
Oui, mais on ne peut pas nier que quand même intégrer les marchés de l'Afrique et ouvrir les frontières, bon, ce soit une bonne idée. C'est une bonne idée. L'Afrique, c'est quand même, bon, vous l'avez dit pendant l'introduction, c'est un vaste continent, plus de 30 millions de kilomètres carrés, 55 pays indépendants. C'est une population aujourd'hui de plus de 1,2 milliard d'ailleurs, d'habitants, appelés à se multiplier par deux dans les 35 ans ou 30 ans qui arrivent, autour de l'an 2050 selon les prévisions. C'est un immense marché donc, c'est un marché qui est en pleine croissance, c'est beaucoup de pays d'Afrique enregistrent des taux de croissance extrêmement élevés qu'on ne trouve pas dans d'autres régions du monde, 6%, 8%, parfois 10% par an pour certains pays. Donc l'Afrique représente vraiment un marché de l'avenir. Il faut pas que ce marché soit tiré par les échanges avec les autres régions du monde. Et, ce marché gagnerait énormément à ce qu'on permette aux consommateurs internes de bénéficier de toutes les potentialités de ce marché à l'intérieur du continent. Donc c'est pour ça que c'est un bon projet. Ceci étant, évidemment, comme Akiko a dit, bon, il y a quelques difficultés. Est-ce que le timing est bon? Il n'y a pas d'infrastructure de transport transcontinental. Si je veux déplacer, je ne sais pas, un camion de produits agricoles de l'ouest de l'Afrique à l'est, comment je peux faire? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'infrastructure ferroviaire. Tout ça, ce sont des choses. Peut-être que le NEPAD, dont on a parlé tout à l'heure, le nouveau partenariat de développement économique de l'Afrique, aurait, si ça avait bien marché, aurait pu déjà permettre de développer ces infrastructures, mais ça n'a pas été le cas. Donc, il y a une question de timing. N'est-on pas en train de mettre la charrue avant les bœufs? Bon, c'est un peu ça. C'est une question de priorité. Le tissu industriel des pays africains est très faible. Et ce qu'on a à échanger entre nous, Akiko était en train de lister, énumérer ces produits, mais la plupart de ces produits sont des matières premières en fait. On n'a pas d'industrie qui transforme énormément en Afrique. Et c'est là peut-être qu'on aurait dû prendre une stratégie de développement des infrastructures d'abord, du développement des tissus industriels au sein des pays, au sein des organisations régionales, sous-régionales. Comme le disait Grégoire tout à l'heure, la CEDEAO, la Communauté économique de développement de l'Afrique de l'Ouest, est très en pointe dans tout ça. Mais il fallait, à mon avis, d'abord renforcer ces organisations sous-régionales et puis un peu plus tard, aller vers leur intégration dans le cadre du marché de libre-échange.
Alors Emmanuel Higa, vous évoquez tout à l'heure les pays à forte croissance, en voilà un, la Côte d'Ivoire, locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, dit-on souvent. La zone de libre-échange, la ZLEC, sera peut-être une bonne nouvelle pour Abidjan, mais pour l'instant, quand un journaliste ivoirien tend son micro, c'est surtout la discrétion qui prévaut, et les interlocuteurs qui acceptent de s'exprimer sont rares. Écoutez ce reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Sidi Yansané à Abidjan.
Comme les 52 signataires de l'accord, la Côte d'Ivoire compte tirer grand profit de la future zone africaine de libre-échange. Le pays des éléphants continue d'occuper une place de choix parmi les économies les plus dynamiques du continent. Depuis 2012, son taux de croissance annuel est de 8,6% en moyenne, d'après le gouvernement. Pour Stanislas Zézé, le président de l'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation, les projections économiques pour l'Afrique sont excellentes.
Nous sommes en train de parler là aujourd'hui, en l'état, de près de 3 000 milliards en termes de PIB, 300 000 emplois directs, 2 millions d'emplois indirects. Et d'ici une dizaine d'années, le commerce intra-africain passera de 17% aujourd'hui à 25% à peu près. Ça, ce sont des avantages significatifs et je crois que ça amorce également le début d'une libéralisation en termes de frontières, en termes de libre convertibilité des monnaies, parce que bon, évidemment, ce sont des étapes qui devraient suivre pour pouvoir consolider cette zone de libre-échange.
Au-delà du continent, la ZLEC va surtout permettre aux économies africaines de peser véritablement sur les marchés à l'international. Un atout considérable pour la Côte d'Ivoire, première productrice de cacao devant le Ghana. Les deux fournisseurs d'or brun viennent justement de fixer un prix minimum à 2 600 $ la tonne. La ZLEC facilitera cette initiative. Stanislas Zézé.
Vous avez bien vu, café, cacao, deux pays de cette zone de libre-échange représentant 60%, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et tout ça mis ensemble, ça donnera une force d'impact sur le coût de certaines matières premières. Et ça, c'est très important. Parce que vous ne pouvez pas être premier producteur de cacao et puis ne même pas avoir votre mot à dire sur la fixation des prix. Enfin, c'est quand même difficile à accepter tout ça.
Mais il reste encore des points à négocier. Seuls 22 pays ont ratifié le texte portant création de la zone de libre-échange. Le Nigeria, par exemple, craint que son industrie naissante soit freinée par l'arrivée de produits étrangers. C'est peut-être la raison pour laquelle certains chefs d'entreprise ivoiriens se montrent réticents à s'exprimer sur le sujet. Mais pour Stanislas Zézé, cette concurrence ne peut être que bénéfique.
Entre pays sous-développés, sous-fuit à la compétition, il y a un problème. Cette concurrence serait une concurrence saine et qui permettrait justement aux pays africains de se mettre à niveau progressivement pour arriver à des niveaux de compétition fortes pour les préparer à des traités comme l'ACP, par exemple, où ils vont devoir compétir avec des entreprises qui sont beaucoup plus avancées, mais il faut un apprentissage.
Et les États ont jusqu'au 7 juillet pour mettre en place les outils destinés à limiter la concurrence déloyale dans la ZLEC.
Reportage signé Sidi Yansané à Abidjan, dans les codiciers quoi d'ailleurs sur RFI. Grégoire Otagradjezi, qu'est-ce que ça vous inspire, ces réactions de Stanislas Zézé à Abidjan, cet investisseur, ce spécialiste des questions financières? Lui, il parle essentiellement matière première, comme Emmanuel Higa tout à l'heure. Ouais. On a l'impression, quand on entend finalement que cette zone de libre-échange, on a l'impression qu'il se projette pas vraiment dans une transformation des économies africaines.
Oui, cette zone de libre-échange, il faut bien voir qu'elle arrive aussi dans un contexte avec une tendance très lourde, c'est-à-dire de désarmement tarifaire qui a été engagé dès les années 80. J'ai regardé un petit peu les chiffres de la Banque mondiale, mais dans les années 80-90, on était à des taux moyens mondiaux de 15% de droits de douane effectifs, des moyennes simples. Aujourd'hui, on est au niveau européen à moins de 2%, à près de 2%, les États-Unis à peu plus de 3%, donc les tarifs douaniers diminuent.
Dans le monde,
en général.
Malgré Trump.
Alors, bien sûr, il y a une petite réaction. Trump, effectivement, ça remonte un petit peu en ce moment. On se repose la question d'un réarmement tarifaire pour protéger, comme l'a dit en introduction Akiko, pour protéger des industries. Je regardais le traité lui-même de la ZLEC. Il y a quand même un article dédié à la protection des industries naissantes. Maintenant, chaque État est libre d'interpréter cet article et de l'étendre. Est-ce que l'industrie naissante dans un État sera sur la transformation pétrolière, de produits pétroliers, dans un autre sera sur la valeur ajoutée de cacao. Là, vous vous retrouvez, vous voyez, la complexité, oui, le diable est dans le détail. Et effectivement, aujourd'hui, la ZLEC, si je veux pas être le pessimiste de la table, mais j'ai peur.
Il faut assumer.
Ouais, j'assume complètement. Moi, j'ai très peur pour les pays enclavés. C'est clair qu'une zone de libre-échange va favoriser outrageusement les pays à façade atlantique ou océan Indien. Et donc des pays comme le Mali ou Niger risquent de perdre beaucoup.
Pourquoi
Vous les désarmez. Le tarif douanier est une protection. Alors bien sûr, on va avoir des substituts. Et là, je connais les substituts, ce sont la fiscalité. Ce seront des droits d'assise, la TVA, plus ou moins bien appliquée, discrétionnaire, comme elle est appliquée au Nigeria et au Ghana, par exemple. Mais ce seront des substituts, ce seront plus des tarifs, mais on aura des substituts fiscaux, entre autres.
C'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la zone de libre-échange continentale qui vient d'entrer en vigueur en Afrique avec trois invités. Grégoire Rota-Graziosi, directeur du CERDI à Clermont-Ferrand, qui s'exprimait à l'instant. Akiko Souaïzenman, directrice de recherche à l'Institut National de la Recherche Agricole et chercheuse à l'École d'économie de Paris. Et Emmanuel Higa, géographe, économiste et nigérian. Emmanuel Higa, pendant que Grégoire Rota-Graziosi parlait, vous avez ajouté un pays à la liste de ceux qu'il a cités, le Mali, le Niger. Vous parliez du Tchad comme pays enclavé qui pourrait être victime de cette zone de libre-échange.
Oui, oui, absolument. Le point soulevé par Grégoire est très important. Donc, effectivement, ce sont les pays à façade maritime. J'ai parlé tout à l'heure un opérateur du secteur agricole qui voudrait, je ne sais pas, transporter des produits du Sénégal, je ne sais pas, vers l'Afrique centrale. Comment il va faire? La route la plus facile pour lui, c'est la mer, je ne sais pas, jusqu'au Cameroun, et puis bon, il remonte, je ne sais pas. Pas la route. C'est compliqué. Parce qu'on n'a pas ces infrastructures routières, ferroviaires, transcontinentales qui peuvent relier, ça, le genre de choses. On peut, ici, en Europe, voyager depuis le Portugal jusqu'en Russie.
Par la route.
Par la route.
Ou par le train. Ou par l'avion.
Et on n'a pas cette possibilité-là en Afrique. Et les pays les plus pénalisés sont ces pays, effectivement, enclavés. Évidemment, quand il a cité le Mali, j'ai pensé au Tchad. Et j'ai pensé ça. À l'autre volet du problème, la question de l'insécurité qui mine des régions entières de l'Afrique, donc notamment le Sahel, du Mali, du Burkina Faso, Mali jusqu'au Niger, Nigeria, Cameroun, jusqu'en Centrafrique, jusqu'à l'Afrique de l'Est. L'Afrique connaît d'immenses problèmes d'insécurité en ce moment. Et on est en train de parler d'ouvrir un peu les frontières pour que les biens puissent circuler facilement. Et comment on va gérer tout ça au regard de cette crise de l'insécurité qu'on a, notamment qui frappe ces pays enclavés, le Boko Haram au Nigeria, pour le nord du Nigeria, les problèmes au Mali avec...
Mais est-ce que la création d'une zone de libre-échange peut ajouter au problème ou quel est le lien?
Le lien, c'est tout simplement que ce problème d'insécurité va freiner la mise en œuvre d'un marché de libre-échange. Comment ferez-vous le libre-échange? Le libre-échange, si les déplacements ne peuvent pas être sécurisés, et on ne sait pas dans combien de temps on pourra dire que les frontières sont sécurisées, on peut aller même du Nigeria au Cameroun, que ce soit les frontières sud entre les deux pays ou les frontières nord. Il y a les agissements des Camerounais anglophones qui réclament bon leur indépendance, etc., qui font que bon, il y a pas de possibilité de sécuriser cette frontière au sud du Niger entre le Cameroun et le Niger, le nord, Boko Haram, toute cette région là autour du lac Tchad. On a besoin de la paix, on a besoin de la sécurité pour que tout acte de ce genre puisse se réaliser, se mettre en œuvre avec une chance de succès. Ouais.
À qui chance de succès.
Il faut bien se rendre compte que la politique commerciale n'est pas un substitut de politique de développement, ni de politique nationale, ni de politique... Et ça peut être juste un élément. De nouveau, peut-être qu'il faut se rappeler l'Europe, quoi. L'Europe après-guerre, après toutes ces guerres et tous ces conflits internes à l'Europe. s'est construit sur ces ruines, sur ces guerres, pour aller vers la paix. Donc on peut peut-être espérer que commerce apporte une petite pierre là-dessus. Et alors je voudrais revenir sur cette question de la transformation. Donc dans cette zone de libre-échange est extrêmement inégale, ce qui a été dit. Et il y a au moins un, voire deux moteurs industriels, qui est l'Afrique du Sud et le Nigeria. L'Afrique du Sud est dans la zone pour l'instant, le Nigeria n'y est pas. Si les deux y sont et remplissent leur rôle, ils peuvent jouer un rôle dans une chaîne de valeur régionale, comme donneurs d'ordre et investisseurs dans les autres pays.
Donc, vous pensez que, hors de la présence de ces deux pays, la zone de libre-échange est vouée à l'inexistence?
Mais en tout cas, si on parle de transformation, ceux qui ont la capacité, qui ont une industrie, qui sont diversifiés, qui ont la capacité d'investir, régionalement, il y a Maurice pour Madagascar, ou le Maroc, mais.
Alors là, il y a Grégoire Rota-Graziosi qui lève les yeux au ciel.
Oui, Maurice a un développement financier, Maurice a eu un développement économique, mais vous voyez quand même les transferts qui vont de Madagascar. Il y a quand même une extraction de ressources de Madagascar qui alimente Maurice, comme on peut aussi certains travaux mettre en évidence une extraction de ressources légales ou illégales de l'est de la RDC qui alimente le Rwanda. Donc il faut être quand même assez prudent, sortir l'exemple de Maurice, qui est une toute petite île, qui bénéficie d'un accord de non-double imposition avec l'Inde, et dont tous les capitaux, au lieu de rentrer en Inde directement, qui viennent des États-Unis ou Britanniques, passent par l'île Maurice. Et même l'Inde veut récuser ce traité de non-double imposition entre Maurice et l'Inde. En faire de Maurice un exemple pour les autres pays africains, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est assez dangereux. Après, moi, je suis d'accord avec vous sur ces locomotives industrielles que sont l'Afrique du Sud et le Nigeria, mais le Nigeria développe à une politique que l'on peut discuter, une politique style Argentine, c'est-à-dire des tarifs très très élevés pour protéger une industrie naissante.
On va continuer à parler du Nigeria, bien sûr, parce que c'est un point central dans la création de cette zone de libre-échange, et vous l'avez dit l'un et l'autre, le Nigeria refuse toujours pour le moment de rejoindre la majorité des pays africains. La première puissance économique africaine réclame en particulier des garanties sur la traçabilité des marchandises et des services qui sont présumés produits localement. Lors de son premier mandat, le président Muhammadu Buhari a banni l'importation d'une cinquantaine de produits pour relancer et favoriser le Made in Nigeria. Comment expliquer cette position protectionniste défendue par le chef d'État nigérian et par beaucoup de gens autour de lui au Nigeria? C'est un reportage d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Moïse Gomis à Lagos au Nigeria.
À midi d'Issimi est une figure montante du monde économique nigérian. Elle dirige l'ADOL, une zone franche technique et logistique située sur le port de Lagos. L'ADOL pèse plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme la majorité des entrepreneurs et des décideurs au Nigeria, Amidia Desimi reste frileuse vis-à-vis de l'ASLEC.
Pour moi, ce qui compte, c'est avant tout la production locale. Nous devons nous assurer que ces accords génèrent une vraie industrialisation en Afrique. Ainsi seulement, nous commercialiserons donc des produits fabriqués en Afrique. Pas seulement fabriqués en Afrique, mais conçus en Afrique. Et si l'accord n'a pas cela comme objectif principal, alors je ne pense pas qu'il faille signer quoi que ce soit.
Pourtant, pour l'expansion de son entreprise, l'ASLEC serait une vraie fenêtre d'opportunité. Car Amidia Desimi rêve de faire de l'ADOL le hub logistique portuaire par excellence de l'Afrique de l'Ouest. Néanmoins, Amidia Desimi estime que l'Afrique doit d'abord se protéger, comme d'autres zones continentales l'ont fait avant ou le font encore.
L'Union européenne avait mis en place des politiques protectionnistes très strictes dès son départ. Elle s'est construite là-dessus pour être l'hyperpuissance économique qu'elle est maintenant, en favorisant le commerce entre ses pays membres. Ils ne se sont pas ouverts à la concurrence externe avant d'avoir atteint un certain niveau de développement. Donc je ne pense pas qu'il soit correct d'insister pour que les pays africains s'ouvrent pour devenir des importateurs en masse de tout.
Le docteur Austin Nwedze est chercheur à l'Université Panama Atlantique de Lagos. Cet économiste préconise une politique d'aide directe aux entreprises par l'État nigérian, des aides ciblées en direction des filières nigérianes solides et compétitives sur le marché africain.
Maintenant que nous sommes dans l'économie de la connaissance, beaucoup de choses vont vite. Donc, quelle que soit la décision que le Nigeria doit prendre, il faudra se décider rapidement. D'ici fin 2019, il faudra trancher et il faudra que les autorités assument leur choix. Sinon, il sera difficile de rattraper le retard pris par rapport aux autres grands pays déjà signataires. Le Nigeria ne peut pas se permettre de rester à l'écart. Nous sommes la première économie en Afrique. Le Nigeria devrait donc prendre les devants. Mais encore une fois, tout se résume au leadership.
Mercredi dernier, le président Muhammadu Buhari a reçu une organisation patronale hostile à la signature en l'état de l'accord de la ZLEC. Muhammadu Buhari a répété sa position à ses représentants des fabricants du Nigeria. Au sujet de la zone de libre-échange continentale, seul l'intérêt du Nigeria compte.
Un reportage signé Moïse Gomis, donc au Nigeria. Emmanuel Iga, naturellement, je me retourne vers vous, puisque vous êtes nigérian, je le rappelle. Buhari a raison d'être si prudent, d'attendre pour signer.
Effectivement, l'attitude qu'on dit en anglais « wait and see ». Voilà,
il faut attendre pour voir.
Attendre pour voir, il faut se donner du temps. Mais alors, je ne sais pas si ce sera signé rapidement, mais je pense que le problème qui anime le débat au Nigeria, c'est la possibilité que cet accord de libre-échange débouche sur une sorte de dumping sur le marché nigérian de produits qui ne sont pas authentiquement des produits fabriqués par des entreprises africaines avec des matières premières africaines, une industrie vraiment africaine. La peur que les Nigériens ont, c'est la possibilité, par exemple, pour un pays comme la Chine, qui est en train de mener une politique expansionniste au niveau des investissements tous azimuts en Afrique, extrêmement forte, et que imaginons que la Chine crée des industries en peau partout. La Chine est présente en Éthiopie, présente je ne sais pas où, au Rwanda. Il n'y a pas de pays pratiquement où la Chine n'est pas fortement représentée dans le marché local. Et que si la Chine profite de cette ouverture des marchés, par exemple, pour fabriquer de toutes sortes de produits en pouvant leur donner une sorte d'étiquette africaine. Et ils peuvent donc profiter de tous les avantages fiscaux, tarifs douaniers, etc., pour les transporter donc un peu partout, y compris au Nigeria, surtout au Nigeria quand même, où le marché est un marché extrêmement dynamique et important. On parle là quand même de 200 millions d'habitants, et c'est pour ça que le Buhari réfléchit à comment protéger les intérêts des entreprises nigériennes, surtout à un moment où l'économie nigérienne ne va pas si bien.
Akiko Suwainzonman, c'est un danger cette zone de libre-échange pour le Nigeria si on n'y fait pas attention?
C'est quelque chose qui existe dans tous les accords de libre-échange, parce que dans les accords de libre-échange, c'est pas comme l'Europe, de nouveau, où on a une union douanière. Donc on est toute la zone a le même droit de douane, que le produit rentre par le Nigeria, par le Cameroun, par l'Afrique du Sud, c'est la même chose. En fait, dans la zone de libre-échange, chaque pays ou chaque zone va garder sa forteresse extérieure. Et donc, il peut y avoir des machicoulis et des endroits où c'est plus facile de rentrer. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que les gens essaient de définir.
Attendez, la zone de libre-échange, ça ne veut pas dire disparition des tarifs douaniers entre tous les pays africains?
Alors, entre tous pays africains, il y aura une disparition des droits de douane, mais à l'extérieur, chacun chez soi. Vis-à-vis de l'extérieur, chacun chez soi. Et vis-à-vis de l'extérieur, chacun chez soi deux fois, parce que c'est un accord de libre-échange, et chacun chez soi parce qu'il y a aussi dans le protocole une clause de la nation la plus favorisée, mais qui est très étrange, et qui dit, si vous, Cameroun, vous négociez quelque chose avec un partenaire privilégié, la Chine par exemple, ou l'Union européenne, vous l'avez déjà négocié, vous pouvez préserver vos acquis. C'est-à-dire que vous pouvez garder ce lien et ne pas en faire profiter non seulement d'autres, mais aussi non seulement vos amis africains. Ce qui veut dire que chacun va garder son accès privilégié, ses accords privilégiés avec l'Union européenne, avec la Chine. Donc la Chine est déjà en fait dans la place, si vous voulez. Et donc ça veut dire que c'est une clause de la nation la plus favorisée qui est un peu dévoyée.
Alors la clause de la nation la plus favorisée, il faut expliquer, rappeler ce que c'est.
La clause de la nation la plus favorisée, c'est un des éléments importants qui est à la base de l'OMC, qui dit, moi, si je vous accorde une faveur, Jean-Pierre Boris, eh bien vous devez l'accorder vous devez l'accorder aussi à Grégoire, à Emmanuel, à tout le monde. Et c'est un instrument très important de libéralisation, puisque ce que moi, j'arrive à obtenir de vous, vous devez l'accorder à tout le monde. Mais si maintenant, dans la zone de libre-échange, il y a une clause très très bizarre, vous allez me l'accorder à moi, au Japon, mais vous n'allez jamais l'accorder, ni à la France, ni au Nigeria, ce qui est aussi un pays
africain.
C'est
compliqué, mais c'est important, Grégoire Protagrandiozzi, parce que ça montre quand même certaines limites de cette zone de libre-échange qui est sur les fonds baptismaux en ce moment.
Tout à fait. Une autre règle très importante, c'est la règle d'origine. La règle d'origine définit ce qu'est un produit made in Africa. Est-ce que c'est 20, 30, 50, 70% de valeur ajoutée faite en Afrique? Je sais, pour avoir travaillé sur ces cas-là, par exemple, il y avait du clinker, un élément important pour faire du ciment, qui rentrait au Sénégal. Et le Sénégal était déclaré faire du clinker pour ensuite, pour le reste de l'UMO. Et il y a eu une directive spéciale anti-clinker. Le clinker arrivait par paquet de 50 kilos et était reconditionné en paquet de 5 kilos et bénéficiait de Made in UMO et évitait les tarifs douaniers qui protégeaient chaque pays pour développer son industrie de ciment. Et le ciment, c'est un matériel lourd, pondéreux et peu cher. Normalement, on devrait avoir des cimenteries dans tous les États. Mais juste pour vous dire, voilà, la règle d'origine, c'est très important. C'est de dire qu'est-ce qui est Made in Africa. Je connais assez bien le cas du Nigeria, qui est à côté du Bénin et du Togo. Il y a un commerce informel énorme qui est utilisé par le Bénin, le Togo et même la Côte d'Ivoire pour le riz. Le Bénin, le Togo importent deux fois plus de riz que ce qu'ils consomment parce que le Nigeria, voulant assurer une autosuffisance alimentaire, pratique des tarifs très très élevés sur le riz pour se protéger du riz thaïlandais, indonésien et autres, qui est lui subventionné. Donc ils veulent avoir une autosuffisance alimentaire, ils mettent des tarifs élevés au Nigeria, et en même temps, au Bénin ça rentre, et en Côte d'Ivoire ça rentre, et ensuite, par le secteur informel, on arrose
ce processus-là ne pourra qu'être amplifié, c'est ce que les Nigérians pensent, par cet accord de libre-échange économique.
Peut-être un tout petit lueur d'espoir.
Parce qu'on est très loin de l'optimisme que vous manifestiez au début de l'émission.
Est la règle de cumul des règles d'origine. Alors donc là, on rentre vraiment dans la boîte noire des accords de libre-échange. La règle de cumul des règles d'origine, ça veut dire je veux que 30% de la valeur ajoutée soit faite dans ce pays pour avoir droit au Made in Africa. Donc ça, c'est une règle générale, mais qui est assez simple, qui existe, c'est celle dans le COMESA.
Communauté économique des pays d'Afrique orientale et australe. Voilà. COMESA, oui.
Sinon, il peut y avoir des règles de produit par produit, des règles spécifiques par produit. Alors ça, le bel exemple, j'ai travaillé dessus avec Olivier Cadeau, c'est l'ALENA ou...
ALENA, États-Unis, Mexique, Canada.
Exactement, où l'annexe doit faire à peu près 400 pages. Donc ligne à ligne, et donc ça je défie quelqu'un de le producteur, il a intérêt à bien savoir lire et à bien viser le marché, c'est très compliqué. Mais après, on espère que les Africains iront plutôt vers des produits, vers des règles générales. Mais ensuite, s'il y a une règle de cumul, c'est-à-dire un produit avec 5% de valeur ajoutée au Niger, 10% au Nigeria, 5% à Madagascar, si ça fait 30%, et que c'est Made in Africa, là on a un marché.
C'est valable.
Règle du cumul, la plus large possible, la plus flexible possible, l'instant, rien dans le traité ne dit qu'ils vont pas aller vers ça. Ça, ce serait pas mal.
Grégoire Rotagras aussi.
On a aussi une super possibilité de faire de la fraude. Hein, comme un petit carrousel de TVA et en faisant semblant de faire tourner la marchandise pour accumuler de la valeur ajoutée. C'est déjà le cas. Le gros problème, c'est ces règles d'origine, par exemple, pour le reconditionnement, c'est exclu. C'est typiquement c'est explicitement exclu pour l'UMOA. Oui. On ne considère pas qu'un reconditionnement permette de faire du made in UMOA. Les petites motos chinoises qui arrivent, elles arrivent maintenant en pièces détachées. Elles sont montées. Alors vous allez me dire, ça fait un peu de main d'œuvre. Mais parce qu'elles étaient taxées comme produits finis, si elles arrivaient finis. Je veux dire que même l'Union Européenne, et vous aviez tout à fait raison...
C'est les motos qu'on appelle les Jakarta, par exemple.
Oui, par exemple. Ouais. Mais vous aviez tout à fait raison d'évoquer l'Union Européenne, mais faut pas oublier que l'Union Européenne, d'abord, elle s'est construite sur le charbon, c'est la CECA, c'est le charbon et l'acier. On est parti de quelque chose de très étroit. Et c'est toujours cette approche de vouloir faire un grand traité de libre-échange qui ressemble à plutôt que de se concentrer sur peut-être un ou deux éléments comme le cacao. Effectivement, il y a 60% de la production mondiale qui est faite sur quelques pays, peut-être. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on est parti en ayant un accord moins ambitieux au niveau, mais plus facile à mettre en œuvre. La mise en œuvre est plus importante, peut-être, à la fin.
On va prendre un troisième exemple, un troisième pays, le Burkina Faso, où la zone de libre-échange continentale n'est pas une idée, un projet encore très bien connu par la majorité des acteurs de l'économie. C'est avec beaucoup de prudence, là aussi, que certains abordent le sujet. Les responsables de la Chambre de commerce se sont fait tirer l'oreille pour répondre aux questions, et au ministère du Commerce, on refuse carrément d'en parler, et on préfère attendre que tout soit d'abord mis en place. C'est un reportage Éco-d'ici, Éco d'ailleurs, à Ouagadougou, signé Yaya Boudani.
Très peu d'acteurs de l'économie burkinabè savent ce qu'est la zone de libre-échange continentale. Ceux qui en ont entendu parler en savent juste les objectifs.
On entend souvent parler dans la presse et tout, mais franchement, l'application sur le terrain là, on ne sent rien encore.
Voilà, ça va permettre aux différents pays de faciliter les échanges et apporter un plus.
Il y aura peut-être avec les acteurs économiques, les chambres de commerce pour donner mieux d'explications.
Roch Donatien Nagalo est le secrétaire général du syndicat national des commerçants du Burkina. Il estime que cette zone de libre-échange continentale pourrait être une opportunité pour les pays africains de faire valoir leur production sur les marchés mondiaux.
Avec la fédération, il est certain que l'Afrique aura plus des champs libres pour faire ces échanges, mais aussi que les populations vont se socialiser mieux et encore voir des perspectives de développement, de production en Afrique, de transformation en Afrique et de consommation africaine, ce qui va favoriser le développement de nos États.
Gauthier Badeau est entrepreneur spécialisé dans l'importation et la commercialisation de matériaux dans le domaine médical. Il salue la création de ce grand marché de plus d'un milliard d'habitants et espère un respect des règles du jeu commercial par tous les acteurs.
Par exemple, il y a des gens qui importent des produits et souvent il y a des gens qui disent non, il y a des raquettes en fait. Même pour les personnes, même simples, on demande des documents. On livre tous les documents, mais il faut forcément payer quelque chose.
Au niveau de la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina, personne ne souhaite s'exprimer sur la mise en place de cette zone de libre-échange continentale. Malgré nos multiples tentatives, toutes les portes sont restées fermées. Quant au secrétaire général du syndicat des commerçants du Burkina, il redoute une mainmise des grandes firmes sur toute l'économie des pays africains.
S'il n'y a pas une organisation, il faut se dire que c'est une autre nouvelle forme de domination qui est en train de s'installer. C'est qu'il y a des grandes firmes, des grandes multinationales qui viennent, qui perturbent le marché national par les règles du jeu et qui achètent comme ils veulent, qui imposent les prix qu'ils veulent. Tout cela cause des obstacles.
Au ministère burkinabé du Commerce, l'on préfère attendre la prochaine réunion des chefs d'État avant de s'exprimer sur le sujet. Car selon un agent du dit ministère, il reste encore beaucoup d'aspects à régler et il serait imprudent de parler de cette zone de libre-échange à l'étape actuelle.
Un reportage signé Yaya Boudani à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans Éco-d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. C'est la question qu'on a un peu évoquée, mais les grandes entreprises, Dangote par exemple, le magnat du ciment au Nigeria, mais qui est présent sur pratiquement tout le continent, et qui ne fait pas que du ciment, est-ce qu'il n'a pas intérêt à cette zone de libre-échange, Emmanuel Iga?
Ah oui, mais moi je pense que lui, il doit être en train de voir cette évolution de bon œil. Il a très bon service de distribution à travers tout le continent. Donc le problème de d'infrastructure de transport dont je parlais tout à l'heure, bon, il a réussi à trouver des solutions. Il vend son ciment pour partout en Angola, etc. Donc nous, je pense que ça ne va pas faire peur à des entrepreneurs de son niveau. Je pense que le problème pour le Burkina Faso, bon, c'est un pays assez petit qui n'a peut-être que des matières premières, quelques produits miniers, l'agriculture. Il n'y a pas vraiment d'industrie qui puisse permettre de fabriquer des choses que le Burkina pourra vendre. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils s'inquiètent un peu. Et c'est un peu la même inquiétude dans la plupart des pays qui ont des réticences par rapport à ce projet.
Les produits agricoles, Grégoire Rota-Graziosi ou Akiko Tsuwaizenman, est-ce que ils sont concernés par cet accord de libre-échange et est-ce que dans une zone de libre-échange, on peut faire circuler des produits agricoles de manière positive, optimale, à la fois pour les consommateurs et pour les producteurs?
En quelques mots, oui. Alors là, pour une fois, je pense qu'il faudrait d'abord que les produits puissent circuler même à l'intérieur des pays, à cause des routes, à cause des tracasseries, à cause de l'absence de logistique. Mais normalement, oui, c'est l'agriculture et les produits transformés devraient pouvoir alimenter.
Cette zone de libre-échange, ça pourrait être un coup d'accélérateur pour la transformation agricole, Emmanuel Iga?
À terme, oui. À terme.
À terme. Oui,
tout est question de timing. C'est ce que je disais au début.
On essaye de trouver un peu d'optimisme quand même. Okay. Et vous êtes là systématiquement, Grégoire Rota-Graziosi, à lever les yeux au ciel et à démolir.
Le côté optimiste, honnêtement, je vois. Enfin, oui, c'est vrai que j'ai une approche assez les intérêts particuliers. Je vois avec cette zone de libre-échange et notamment certains articles dans cet accord, la capacité d'opposer des intérêts et de promouvoir la concurrence et de réduire les rentes de certaines sociétés nationales, multinationales, etc. Ça, c'est clair. Maintenant qu'il y ait un désarmement tarifaire, enfin une baisse des droits de douane, à la limite, les droits de douane ont déjà baissé et il y a d'autres taxes qui continueront à être prélevées. D'ailleurs, juste comme provocation, vous savez comment est financée la commission de l'Union africaine? Par l'équivalent d'un tarif douanier, à 0,2% sur toutes les importations, comme la CEMA, comme l'UMOA et comme la CDAO. Ouais. Donc on désarme, mais en même temps, pour se financer, on prend à 0,5 ou 0,2% en l'occurrence pour l'Union africaine. Donc on n'a pas trouvé de substitut même pour financer l'État. Enfin, on trouve la TVA, mais la TVA reste essentiellement collectée en douane. Enfin, donc le point l'avantage, le côté moteur, c'est cette réduction de la rente par la concurrence et la capacité des États d'en référer à la Commission au titre de ce traité de libre-échange.
Un exemple de rente qui pourrait être réduit par cet accord.
Par exemple, sur les importations de certains matériaux, de matières premières ou de produits alimentaires, pour des raisons, on va dire, phytosanitaires, il y a une réglementation qui limite à un petit nombre de happy few le droit d'importer ces biens et qui bénéficient, et même pour des pays comme au Sénégal, qui bénéficient de rentes non négligeables. Donc, ils importent du riz de Thaïlande ou d'Indonésie, ce que vous voulez. Ils ont cette autorisation donnée par un ministre de l'agriculture ou du commerce, etc., etc. C'est là où on se retrouve, où là, je suis d'accord, on a un petit groupe d'individus dans chaque pays qui bénéficient de cette rente. Et ce traité permettra de faire sauter ces rentes.
C'est l'espoir que vous formulez, Grégoire Graziosi. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez nous podcaster sur votre smartphone via l'application de RFI Pure Radio. Vous retrouverez les explications de Grégoire Rota-Graziosi avec un peu d'optimisme qu'on vient d'entendre, d'Akiko Tsuwaizenman et d'Emmanuel Iga, que je remercie d'avoir participé à cette émission sur la zone de libre-échange continentale africaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.